La médecine bikini.
Ah.
On traite même médicalement le corps de la femme comme un objet plus que comme quelque chose qui est censé fonctionner et permettre de vivre, quoi.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver une fois de plus alors que mon congé paternité devait démarrer vendredi dernier, à croire que mon fils sera le premier humain à naître à 10 mois, ce qui sera l'occasion de faire une émission sur la gestation tardive. Ici rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme en émission. Zoom zoom zen chaque après-midi, 2 heures pour décrypter notre époque à travers ses mots, ses expressions et aujourd'hui une expression qui a induit en erreur Quentin. En effet, pour lui, l'expression « médecine bikini » renvoyait forcément l'idée de se faire du bien en mettant des femmes en bikini. Oh. La médecine par le bikini, en somme, il était très impatient à l'idée de participer à cette émission. Jamais le gai savoir ne l'avait autant excité. Mais voilà, hélas pour lui, le concept de médecine bikini n'a rien à voir avec le fait de se rincer l'œil. C'est une expression qui dénonce le fait que pendant trop longtemps, les médecins ont négligé la spécificité du corps féminin. Pour eux, à part la poitrine et les organes sexuels qui méritaient qu'on s'y penche un peu, tout le reste du corps de la femme, bah ma foi, c'était la même chose que le corps de l'homme. Quoi. Remets-moi une suce de nid, on va pas y passer la nuit. Seulement voilà, la science moderne est venue saper l'insouciance des médecins qui ont aujourd'hui la suce amère. Non, le corps des femmes n'est pas grosso modo pareil que celui des hommes, leur foie, leur cœur, leur rein appellent des traitements parfois différents. Bref, l'avenir est à la médecine sexo-spécifique, mais ça, ça fera l'objet d'une autre émission car à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, zoom donc sur ce qu'on appelle la médecine bikini.
France Inter. Zoom zoom zen. Noël.
Et on accueille aujourd'hui, c'est notre 524 émission, la meilleure invitée de l'histoire de Zoom Zoom Zen, puisque c'est la seule à m'avoir apporté un cadeau de naissance avant même la naissance, et qui plus est, un arrangé du petit clos normand, c'est un calva arrangé. Bonjour Muriel Salle.
Bonjour.
Alors je tiens vraiment à vous remercier, c'est un très beau cadeau qui me touche, et qui touchera toute l'équipe si tant est que je partage cette bouteille, ce qui n'est pas encore écrit. Vous êtes historienne Muriel, maîtresse de conférence à l'université Claude Bernard Lyon 1, spécialiste de l'histoire des femmes, vous travaillez particulièrement sur les discours médicaux et la santé. Vous enseignez d'ailleurs à la faculté de médecine et à Sciences Po Lyon. Et vous avez publié il y a quelques années « Femmes et santé, encore une affaire d'hommes ?» point d'interrogation aux éditions Belin. Vous allez tout nous expliquer de ce qu'on appelle donc la médecine bikini ou comment la médecine s'est construite en ne prenant en compte que partiellement les problèmes de santé des femmes. Juste le temps de vous présenter mes fidèles complices, à commencer par celle qui connaît bien la médecine bikini. Elle la pratique souvent à l'approche des vacances d'été. Un petit coup de mou, hop, je m'achète en 2 pièces chez RS. Oh, banquier relou, ne pas répondre. Qu'est-ce qui me veut encore celui-là ? Des agios, Manon, c'est des agios qui me veulent. Bonjour Manon Mariani.
Bonjour, bonjour à tous.
Chaque après-midi, vous nous présentez, Manon, l'autre personne à suivre sur notre sujet du jour.
Oui, aujourd'hui, l'une des créatrices de séries les plus connues au monde. On lui doit notamment une série médicale iconique qui en est à sa 21e saison et qui est très importante pour les femmes.
Face à vous, Muriel, on ne peut rien attendre de lui aujourd'hui sur cette question de médecine bikini. Et pour cause, jusqu'à l'âge de 29 ans, il n'a rien su du corps des femmes. Ce n'est que grâce à Nathalie André qu'il croisa à France Bleu, mais qu'il en a pris les rudiments, mais la formation accélérée et encore aujourd'hui il a bien des lacunes. Bonjour Quentin Louis.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour. Vous êtes un monstre.
On embrasse Nathalie.
Ben Nathalie André, oui, elle a cru en moi, elle.
Voilà. Oui, mais moi aussi,
c'est pas le cas tout le monde.
Moi aussi j'ai cru en vous, je vous ai fait venir sur Terre.
C'est pas bien.
Bon, allez. Ne nous étendons pas sur le sujet, mais on embrasse Nathalie. Quentin, chaque après-midi, que vous maîtrisiez le sujet ou pas, vous partez à la rencontre des passants. Alors, la médecine bikini, ça leur inspire quoi ?
Eh bien, ça leur parle aux femmes et aux jeunes femmes que j'ai rencontrées pour vous avec le micro France Inter. Que raconte ce biais sexiste de notre époque ? Vos réactions, vos témoignages et même vos anecdotes aux urgences avant 16h30 dans ce micro-trottoir complètement à la rue.
La médecine est-elle machiste ? Vers 16h30, nous partirons à la découverte des pratiques médicales qui peuvent le laisser penser. Un zoom zoom test spécial découverte médicale. Pas toujours de bon augure, vous le verrez, pour les femmes. Juste avant 17h, Rosa Burstein viendra nous dire si elle est plus une pièce ou bikini. Mais d'abord, Muriel Salle, est-ce qu'on peut dire, en préambule, que la médecine a toujours été, depuis le début, une histoire d'homme ?
Oui, on peut dire que la médecine a toujours été une histoire d'homme, ne serait-ce que si on fait le test et qu'on se demande si on connaît des médecins de l'Antiquité ou de l'époque médiévale. Voilà, on a un nom qui nous vient, c'est celui d'Hippocrate. Oui. Et puis surtout, au-delà de ça, la médecine, c'est une histoire du regard particulier des hommes porté sur le corps des femmes, pour en dire essentiellement deux choses. D'abord qu'elles sont toujours malades. Voilà, ça c'est une idée qui va avoir la vie dure pendant presque toute l'histoire de la médecine et qui fonctionne toujours assez bien. Et puis aussi pour dire que les femmes sont de drôles d'animaux, en tout cas qu'elles sont atypiques, différentes, spécifiques, enfin...
Alors qu'elles sont la majeure partie du genre humain, je crois. Hein.
Elles sont un à tout petit peu plus que 50%, ouais, effectivement.
Pour lui, je le cite, ces histoires de bonnes femmes, ça va bien 5 minutes. Oh. C'est à contre-cœur, et essentiellement parce qu'on a 220 émissions à remplir, donc ok, que Cyril Lacarrière, notre rédacteur en chef filloniste, s'est résigné à traiter du problème de la médecine bikini. Mais vous allez voir que, mis à part le fait qu'il avait copié-collé deux fois le même paragraphe depuis Wikipédia dans sa chronique, vraie info, il a
non,
vachement...
Il a vachement... Vrai,
bah, il s'était passé un truc bizarre,
oui,
Cyril.
Oui, c'était bizarre, mais c'est pas Wikipédia.
C'était
ChatGPT.
On cite, citons effectivement nos sources. Aujourd'hui, vous avez vraiment enquêté sur le sujet. Évidemment, Cyril, racontez-nous la médecine bikini, d'où ça sort.
Un chiffre pour commencer. Les femmes ont 7 fois plus de chances de mourir d'une maladie cardiovasculaire que d'un cancer du sein, et pourtant, le plus souvent, elles n'en savent rien, et même le corps médical n'en sait rien. La faute à la médecine bikini, la médecine qui s'intéresse à la poitrine et aux organes génitaux des femmes, et beaucoup moins au reste. La médecine qui s'intéresse aux femmes sur tout ce qui touche à la procréation et à leur rôle de mère, et beaucoup moins au reste. C'est à une cardiologue américaine qu'on semble devoir cette notion, docteur Nanette Wenger, dans les années 80. Une notion qu'elle dit avoir utilisée en plaisantant, mais qui a fait mouche et qui est restée. Selon Nanette Wenger, cette médecine bikini s'explique par l'idée qu'il existe une hypothèse tacite que les femmes et les hommes réagissent de la même manière aux maladies et aux médicaments, fin de citation, hypothèse qui se révéla fausse, évidemment. Et c'est parce que cette hypothèse est fausse que le concept de médecine sexo-spécifique a fait son apparition, même s'il a fallu du temps pour que cela soit réellement pris en compte, et j'allais dire pris au sérieux.
Et là, Cyril, vous dites attention.
Oh que oui, car vous êtes peut-être tombé sur le hashtag MedBikini, et vous pourriez croire que ça fait référence à la médecine bikini. Eh bien non. MedBikini, c'est une tendance lancée sur les réseaux sociaux par des femmes médecins qui se faisaient prendre en photo en bikini pour montrer qu'elles pouvaient être des professionnelles et porter des bikinis. Oui, pour certains, ça ne tombe pas sous le sens. Voilà, on en est là, mais aujourd'hui on parle de la médecine bikini, oui, et vraie. On en parle durant une heure.
Merci Cyril. Muriel Salle, Cyril nous rappelait que les femmes et les hommes ne réagissaient pas en fait de la même manière face aux maladies et aux médicaments. Est-ce que déjà on peut dire en quelques mots pourquoi ?
Oui, on peut dire en quelques mots pourquoi, c'est assez facile à comprendre, c'est parce qu'il y a des différences entre les femmes et les hommes. Il y a des différences anatomiques. Là, on parle de la façon dont nos corps sont composés, des organes dont ils sont composés. Bon, voilà, il y a des organes qui sont présents chez les femmes et pas chez les hommes. Je pense que tout le monde voit à peu près de quoi je veux parler. Et puis, il y a aussi des différences physiologiques. Et là, c'est pas de la structure de l'organisme qu'on parle, c'est de son fonctionnement. Donc, il y a des différences de métabolisme, par exemple. Et puisque vous évoquiez le calva en introduction, on ne métabolise pas l'alcool de la même façon, tout à fait, quand on est un homme ou quand on est une femme. Oui, alors en défaveur des femmes. Donc,
ça ne m'étonne pas.
On s'en était rendu compte.
Quelques exceptions biologiques quand même, parce que Manon peut en attester. Pendant des années, en fait, les hommes médecins n'ont pas voulu dissocier les hommes des femmes en médecine. Et c'est une erreur qui a coûté la vie à plein de femmes.
Alors, qui a coûté la vie et qui continue de coûter la vie. Pour donner simplement un chiffre, puisque les maladies cardiovasculaires ont été évoquées en début de démission. La première cause de mortalité des femmes en France aujourd'hui, c'est les accidents vasculaires cérébraux, devant les cancers du sein. Hein, on est à peu près 6 000 morts de plus pour les AVC par rapport au cancer du sein. Ça continue de coûter la vie aussi parce qu'on sait qu'il y a un retard à la prise en charge. Ça, c'est la Fondation de l'Académie de médecine qui l'a montré, avec 30 minutes de retard à la prise en charge pour les femmes qui ont des symptômes d'infarctus.
Et comment ça s'explique, ça ?
Ça s'explique par de très nombreuses raisons. Il y a le fait que il y a des campagnes de communication sur les maladies cardiovasculaires et notamment sur l'infarctus qui décrivent un patient qui est un patient et pas une patiente. Mm-hmm. Donc on s'imagine pas qu'on est en train de faire un AVC.
On n'y pense pas.
Et puis quand on a un petit peu la poitrine oppressée, puis qu'on a consulté un généraliste et qui vous a dit, bah écoutez madame, il faut ouvrir vos chakras, il faut se détendre, plutôt que de vous adresser à un cardiologue, et ben le jour où vous faites un épisode un peu sévère, et ben vous ouvrez vos chakras mais vous appelez pas les urgences. Enfin, en fait, c'est très multifactoriel, c'est pour ça que c'est difficile à détricoter, mais c'est pour ça que c'est intéressant.
Est-ce que c'est la cause, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup d'hommes dans le corps médical, ou c'est une fausse idée ?
Alors, ça, c'est certainement une partie de l'explication, c'est-à-dire que c'est pas seulement le fait qu'il y ait beaucoup d'hommes dans le corps médical, c'est l'effet que les savoirs médicaux sont ce qu'on appelle androcentrés. C'est-à-dire le corps standard à partir duquel on construit la connaissance et auquel on pense en premier, c'est un corps masculin. Donc on se dit, ah bah tiens, mettons la crise cardiaque, comment ça marche chez l'homme ? Et puis on vous décrit une symptomatologie spécifique de l'homme. Et puis après, on se dit, au fait, chez les femmes, comment ça marche ? Et puis là, en deuxième intention, on se met à y penser. Et donc, du coup, on les pense sur le mode de l'exception, on les pense sur le mode de l'atypique, les femmes. Et ben, si vous vous souvenez de vos cours de grammaire, vous savez bien qu'on retient plus facilement la règle que l'exception.
La norme, c'est 1m75 pour 75 kilos, c'est ouais. ça ?
La norme, c'est effectivement... Enfin, en tout cas, si on regarde les mannequins de crash test, c'est 1m75. 15, oui, pour 77 kilos, je crois qu'il est un peu plus épais que ce que vous évoquiez. Ouais. Donc pour beaucoup de femmes, typiquement, puisque je parle de mannequins crash test, c'est tout récent d'avoir des mannequins de crash test adaptés. Mmh. Et voilà, 1m62 pour 62 kilos, de mémoire, les mensurations de ces mannequins-là. Bah, ce qui marche dans les mannequins de crash test marche à d'autres égards quand on teste des molécules pharmaceutiques, même si on a fait beaucoup de progrès, ou quand on fait de la recherche biomédicale de manière générale.
France Inter. Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Pourquoi la médecine a-t-elle si longtemps négligé la santé des femmes en oubliant les spécificités du corps féminin ? C'est ce qu'on appelle la médecine bikini. L'historienne spécialiste de l'histoire des femmes et des discours médicaux, Muriel Salles, est avec nous dans Zoom Zoom Zen. On disait que la médecine, elle s'est intéressée qu'au sein et à l'utérus des femmes sans comprendre les autres spécificités de leur métabolisme. Il faut revenir un instant sur ces risques cardiovasculaires qui sont par exemple très élevés chez les femmes. Et pourtant, on y prête peu attention. Vous disiez, on discutait en antenne, vous dites les choses changent sur ce point des maladies cardiovasculaires. Est-ce que ça change assez vite ?
Alors sur ce point des maladies cardiovasculaires, oui, ça change parce que la Fondation de cardiologie a fait beaucoup de communication là-dessus. Mais est-ce que ça change suffisamment vite ? Voilà, il y a encore une marge de progression, ne serait-ce que parce que bah, les médecins qui sont en poste aujourd'hui et qui sont sortis de la fac il y a 20 ans, ils ont besoin d'une mise à jour et ils n'ont pas toujours le temps de la faire.
Sur l'infarctus, par exemple, il y a une différence de symptômes ? Ça, on peut le dire ? C'est vrai ou pas ?
En fait, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on dit beaucoup, effectivement, qu'il y a une différence de symptômes. Et ça repose sur le fait que, en fait, on pense toujours qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes. En fait, on pense surtout que les femmes sont différentes des hommes, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et donc, du coup, on dit, bah voilà, l'infarctus, ça se présente de telle façon. Et pour les femmes, c'est autrement. Mais aujourd'hui, on a des cardiologues qui vous disent que 9 fois sur 10, le symptôme sentinelle, c'est la douleur dans la poitrine. Donc, il peut arriver qu'il y ait des symptômes spécifiques pour les femmes, et il faut les connaître pour pouvoir prendre en charge les femmes correctement, mais il peut arriver aussi qu'elles présentent un infarctus qui ressemble à un infarctus de gars, quoi. Voilà. Donc, en fait, rien n'est simple. C'est pas si simple que ça.
On a parlé dans cette émission des retards pris sur la question des règles, par exemple, ça nous est arrivé. L'endométriose, ça c'est un sujet qui commence à être évoqué de plus en plus. Il a fallu quand même un temps dingue pour évoquer l'endométriose qui a, en fait, j'imagine, toujours existé en fait. Elle a été inventée avec le mot.
Alors est-ce qu'elle a toujours existé ? Bah, ça, on peut faire l'hypothèse que oui. Ce qu'on sait, c'est qu'elle est décrite de manière très précise par un médecin autrichien en 1860.
Oui.
Et qu'elle fait l'objet d'un plan national en 2020 en France. Donc là, on voit bien dans l'espace-temps qu'il y a entre les deux, bah, qu'on a mis un peu du temps à s'y mettre. Mais ça, c'est un très bon exemple. D'abord parce que bon, l'endométriose, c'est une problématique féminine parmi d'autres. Elle a un vrai succès aujourd'hui et les associations de patientes font un vrai boulot de sensibilisation et ça, c'est formidable. Mais il ne faudrait pas que ça soit l'arbre qui cache la forêt. Hein. Et évidemment, il y a plein d'autres problématiques de santé féminine. Et en l'occurrence, l'endométriose, voilà, c'est un bel exemple de ce que l'imaginaire qu'on a du corps des femmes fait à la santé des femmes. En deux mots, je m'explique. Comme on s'imagine les femmes comme d'éternelles malades, chez les femmes, ben, tout ce qui est normal est pathologique. Donc, du coup, c'est normal d'avoir mal. Les douleurs de règles, c'est normal d'avoir mal. Les nausées matinales en début de grossesse, c'est normal d'en avoir. Et donc, du coup, c'est compliqué de se dire là, je suis normalement malade et là, je suis pathologiquement malade. Et donc, du coup, bah, quand est-ce qu'on va voir le médecin et quand est-ce qu'on vous soigne ?
Est-ce qu'il y a des essais cliniques aujourd'hui réels sur les femmes en France et dans les autres pays, aux États-Unis ? On peut le dire ?
Oui, les choses, elles ont quand même évolué de manière très importante et de manière très favorable. Les États-Unis, en 1993, ont fait passer une loi qui impose la prise en considération des femmes et des minorités dans les essais cliniques. L'Europe a suivi au début des années 2000 et aujourd'hui, la France est très bien positionnée puisqu'il y a presque autant de femmes que d'hommes dans les essais cliniques. Alors des fois, avec des trucs un peu bizarres, hein. Par exemple, il y a 76% des personnes impliquées dans les essais cliniques dans le domaine de l'ophtalmologie qui sont des femmes. Bon, on se demande pourquoi, parce qu'il n'y a pas une surreprésentation du nombre d'yeux chez la population féminine. Bon, voilà. Mais par contre, il y a 0% de femmes dans ce qui est produit de contraste dans l'imagerie. Donc, il reste des trucs un peu curieux. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que les choses ont beaucoup progressé et qu'elles continuent de progresser en Europe. Si vous me permettez de le dire d'un mot, ça rétropédale d'ores et déjà aux États-Unis, hein, puisque depuis que le président Donald Trump est arrivé à la Maison-Blanche, il a pris un certain nombre de mesures. Et les lignes directives qui étaient publiées par la FDA, qui est l'équivalent de notre agence du médicament, qui imposait depuis 1993 la prise en compte des femmes et des minorités dans les essais cliniques ont disparu du site de la FDA. Donc on peut faire l'hypothèse, puis on voit aussi disparaître chez nos collègues un certain nombre de projets de recherche. Je pense à une de mes collègues en épidémiologie qui travaille sur la mortalité maternelle des femmes afro-américaines, qui a perdu tous ses fonds de recherche et qui ne travaille plus du tout sur le sujet, alors qu'il y a 2,5 fois plus de risques de mortalité en couche et pour les bébés afro-américains que pour les autres,
ça
par exemple.
Ça veut dire que dans le futur, là, aux États-Unis, les femmes seront moins soignées.
Oui, ça veut dire.
Moins bien soignées.
Ça veut dire qu'elles sont déjà moins bien soignées et ça veut dire que les choses peuvent aller très très vite parce qu'on recule bien plus vite qu'on avance.
Justement, il vient de prendre la parole. Avant de croiser le chemin de Nathalie André, ex-directrice des programmes de France Bleu, il croyait que les garçons naissaient dans les choux et les filles dans les roses. Nathalie, hommage lui soit rendu.
Il a donc appris
que c'était
grande femme des médias.
Il vous a appris que c'était un peu plus compliqué que ça. C'est fort de vos nouvelles compétences anatomiques, Quentin, que vous allez interroger les passants sur cette notion de médecine bikini.
Et ma première rencontre, c'est cet homme que j'arrête alors qu'il sort de sa boutique. Il a mis un petit mot sur la porte vitrée disant qu'il revenait dans 5 minutes. Connaît-il la
médecine bikini? Je sais pas. Biais sexiste en médecine qui consiste à réduire la santé des femmes au seul organe reproducteur. Sur la médecine, j'en ai pas forcément conscience. Par contre, c'est un sujet qui me parle spécifiquement aujourd'hui parce que j'ai appris la maladie d'une jeune femme que j'aime beaucoup qui a une sclérose en plaques. Et effectivement, on est très abouti sur les traitements pour les hommes, mais peu pour les femmes, comme les crises cardiaques. On parle depuis peu des crises cardiaques pour les femmes, mais j'en ai jamais entendu parler de la médecine... bikini.
Bah écoutez l'émission.
Ouais, sur France Inter.
Ouais, France Inter.
J'écouterai.
Zoom Zoom Zen.
Zoom Zoom Zen.
Bonne journée.
J'écouterai. Au revoir.
Léana passe devant moi maintenant, intriguée par le micro. Elle me demande de quoi on parle aujourd'hui.
La médecine bikini. Ah. J'ai entendu parler qu'il y a beaucoup de conceptions qu'on a générales et appliquées principalement aux hommes. Par exemple, le sens de la position latérale de sécurité. Techniquement, quand on est face à une femme ou du moins quelqu'un qui peut se reproduire, normalement, ça devrait être le sens inverse dans l'idée où cette personne est enceinte. Par exemple, on apprend à tout le monde, alors je sais pas de quel côté c'est d'ailleurs, qu'il faut mettre la personne sur tel côté, parce que c'est le mieux, mais en réalité, si la personne est enceinte, pour le fœtus, ce serait mieux de mettre dans l'autre sens.
Alors, effectivement, et je l'apprends là, il est recommandé de mettre une femme enceinte en position latérale de sécurité sur son côté gauche, pour éviter la compression de certains vaisseaux, et je l'apprends là. Hein. Je lui demande ce que ça raconte de notre société, ça.
Je vais dire des grosses généralités, mais c'est vrai que on traite même médicalement le corps de la femme comme un objet plus que comme quelque chose qui est censé fonctionner et permettre de vivre, quoi. Ça s'inscrit dans un truc un peu plus global que je comprends. C'est déplorable. Peut-être dans ce cas-là, ce serait important, mais je sais même pas si c'est possible. Et je pense que c'est un travail très long de reprendre tout ce qu'on sait sur beaucoup de choses en se demandant et ça, est-ce qu'on le sait parce que c'est vrai ou est-ce qu'on le sait parce que on a fait des expériences uniquement sur des hommes, quoi.
Alors faut-il reprendre toutes nos certitudes médicales en testant à nouveau aussi sur le corps des femmes? Est-ce que la recherche prend ça en compte? Est-ce qu'on a le temps et l'argent de le faire? C'est à ça que je pense, en marchant dans la rue et en tombant sur ces deux copines posées sur un banc, profitant du soleil de ce début avril. Bonjour.
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 Qu'est-ce que vous mangez, vous?
Du pain.
Quels sont vos prénoms?
Anne.
Alice.
Vous avez quel âge?
20 ans. On est en sciences sociales à Nanterre.
Je leur demande de lire le thème du jour de Zoom Zoom Zen.
La médecine bikini. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, j'en ai aucune idée. Je sais pas, une médecine qui prône le presque nudisme?
Oui, une sorte de médecine de plage, en tongs et paréo. Non, je leur fais lire la définition.
Cette approche a longtemps limité la recherche médicale sur les différences psychologiques entre les sexes, conduisant à des diagnostics tardifs ou inadaptés. Mais j'ai beaucoup entendu parler des médicaments, etc., qui testaient les médicaments sur le corps des hommes et sur des gabarits fait pour les hommes, et donc les femmes avaient les mêmes traitements.
Les crash-têtes de voiture, où ils testent sur des modèles taille homme, poids homme, et pas sur des modèles taille femme, poids femme.
Intéressante comparaison, on l'a abordé tout à l'heure, et c'est vrai, les mannequins utilisés avant dans les crash-tests des voitures représentent effectivement souvent un homme adulte type. Je leur demande à elles, qui entrent dans leur vie de femme, ce qu'elles en pensent.
Ça suffit, quoi. C'est chiant. Enfin, ça me faisait penser aussi à la maladie de l'endométriose. Il y a en fait énormément de femmes qui se plaignent de leur douleur pendant les règles. Et il y a énormément de symptômes différents. Et on parle que de l'endométriose. Et j'y connais rien. Mais je pense qu'il n'y a pas que cette maladie. Et je pense qu'on est juste très mal renseigné sur le corps des femmes en général.
Ce que dit Anne, c'est que même concernant l'appareil reproducteur d'une femme, la médecine a finalement peut-être peu creusé. Elles ont une expérience qui illustre bien le problème. Et elles me le confient.
J'ai eu des épisodes assez traumatisants. Enfin, je sais que j'ai eu des règles très douloureuses, pliées en quatre, en plein milieu du lycée. On m'a emmenée aux urgences et j'ai poireauté pendant des heures. Tout ça pour qu'un mec me foute une sonde dans le vagin, genre un peu comme ça, en me disant oh non, ça va, tout va bien. Et juste, je sais pas, ils m'ont dit un truc un peu incohérent. Enfin, j'ai pas trop compris ce qu'ils m'ont dit, mais voilà.
Moi, j'ai eu un peu la même chose où, genre, je suis après des règles très douloureuses, je suis allée voir le gynéco, elle m'a prescrit une échographie comme ça interne. En fait, à chaque fois, ils me disent non, il y a rien, mais sans chercher plus, sans se dire peut-être que c'est autre chose, peut-être qu'il y a autre chose qui est pas liée à ça, en fait. Et genre juste, bah, y a rien dans l'utérus, allez hop.
C'était intéressant de discuter de cette notion avec vous et d'entendre vos expériences. D'une sclérose en plaques à la position latérale de sécurité en passant par une sonde vaginale, sans vraiment chercher à comprendre. Et allez hop, la voici, la médecine bikini.
Muriel Salle, on vient d'entendre les réactions de ces deux jeunes femmes qui ont la vingtaine. Elles arrivent aux urgences après des règles douloureuses. On vérifie de ce côté-là et on ne va pas plus loin. Est-ce que ça veut dire que lorsqu'on est une femme en 2025, qu'on arrive à l'hôpital, on a tout intérêt à demander à être ausculté par une femme médecin ?
Ah, si la féminisation de la profession suffisait à faire bouger les lignes, ce serait super.
Ça suffit pas.
Non, ça suffit pas parce que l'égalité des sexes ne vient pas spontanément aux femmes, pas plus qu'aux hommes en l'occurrence. Mais donc non, ça suffit pas d'être examiné par une femme. En revanche, dans ce qu'elles nous disent, il y a plein de choses intéressantes. Il y a notamment tout le cheminement qu'il y a entre le moment où une personne se plaint de quelque chose et puis le moment où on se met à la soigner. Et si on fait les choses un peu par étapes, la première chose, c'est on a quelqu'un qui exprime une plainte. Et cette plainte, il faut qu'elle soit entendu et que un médecin, un professionnel de santé lui donne du sens. Et là, du coup, la plainte, elle va devenir symptôme. Elle va commencer à devenir le signe de quelque chose. On va accepter de lui donner à la fois du crédit et à la fois de se dire bah, peut-être que ce symptôme-là, il nous dit quelque chose du corps des femmes qui consultent. Et puis, à partir de là, bah, on va commencer à explorer le sujet. Alors là, est-ce que l'échographie endovaginale est la bonne solution ? Voilà, de toute évidence, pas. Mais ça veut dire qu'on franchit une étape supplémentaire et que là, on doit mobiliser des outils diagnostiques. L'enjeu, c'est d'avoir les bons outils diagnostiques. Bon, là, en l'occurrence, l'échographie endovaginale, ça rien donné, mais on peut donner plein d'exemples pour lesquels on n'a pas toujours les bons outils diagnostiques. Je vous en donnerai un seul. Les femmes ont des troubles du sommeil plus considérables, semble-t-il, quand on regarde le nombre de femmes qui consultent que les hommes. Quand on cherche des apnées du sommeil chez les femmes, on ne les trouve pas. Et une des hypothèses, entre autres, explicatives à ce sous-diagnostic de l'apnée du sommeil, c'est le fait que les hommes s'arrêtent de respirer et que les machines, elles arrivent à détecter la cessation de la respiration, alors que les femmes, elles ont une baisse importante de leur flux respiratoire, mais elles n'arrêtent pas complètement de respirer. Donc, elles passent en dessous des radars. Et donc, là, on a un problème d'outils diagnostiques et on ne pose pas le diagnostic. Et puis après, bah, la dernière étape, attention, breaking news, si je n'ai pas de diagnostic, je ne cherche pas de solution puisque je n'ai pas de problème. Voilà. Et donc, du coup, bah, l'étape supplémentaire de chercher une thérapeutique, de la développer, voire de la prescrire, et ben c'est encore la dernière partie, j'allais dire la partie visible de l'iceberg. Quoi.
Mais du coup, ce que vous nous dites, c'est que à la base, quand une femme se plaint, elle est moins prise au sérieux parce que c'est une femme.
Oui.
Totalement.
Oui, c'est ça. Et peut-être insister sur le fait que c'est pas seulement dû au fait qu'il y aurait des médecins qui individuellement seraient d'affreux machos sexistes, mais que ça repose sur un imaginaire un peu généralisé, ancien, hyper ancré. Hein. Quand je disais tout à l'heure, les femmes sont d'éternelles malades, ça c'est un truc qu'on dit au 19e siècle. Et cette idée-là, elle vient structurer encore une fois la pensée médicale aujourd'hui. Et comme on ne prend pas toujours le temps d'interroger ces prérequis quand on fait des études de médecine, les études de médecine sont déjà bien denses, on s'arrête assez rarement sur la façon dont les savoirs sont construits et dont on nous les enseigne, et ben on reconduit à l'identique ces idées, ces stéréotypes et ces idées préconçues.
On nous enseigne les premiers secours, Léana qui nous parle de la position latérale de sécurité. J'ai appris ça, j'ai découvert ça. C'est typiquement pensé pour le corps d'un homme.
Bah ouais, typiquement. Alors en même temps, avec une petite nuance, si vous me permettez, c'est-à-dire que quand on se met à penser femme, on se met à penser femme enceinte. Or, attention, deuxième nouvelle du jour, les femmes passent pas l'essentiel de leur vie enceinte.
C'est vrai.
C'est même une toute petite partie de leur vie. Non, mais ça a son importance parce que, voilà, là, pour la PLS, on se met à y penser en se disant, si jamais elle était enceinte, l'exclusion des femmes des essais cliniques, pendant très longtemps, ça a été justifié par le fait que et si jamais elles étaient enceintes. Bon, alors que c'est quand même qu'une partie de la vie. Pas forcément la plus belle, d'ailleurs.
France Inter. Zoom Zoom Zen.
C'est le moment iconique des amateurs de gai savoir, le Zoom Zoom Test. Et aujourd'hui, l'idée de ce quiz m'est venue en pensant à ma femme qui va bientôt accoucher les jambes en l'air. Pourquoi va-t-elle accoucher dans cette position ? Eh bien, à cause de la médecine bikini, encore elle. Jouons au Zoom Zoom Test.
On va tout savoir.
À la découverte ! À la découverte donc des avancées médicales qui sont parfois, on va le voir, des retours en arrière pour la femme, dont la physiologie a longtemps été le cadet des soucis des médecins. Notez en régie que ce tapis vintage est vraiment pourri et je ne veux plus jamais l'entendre. Je préfère rester sur des classiques comme la famille en or. Prenons donc par exemple la position gynécologique classique de l'accouchement dans les pays occidentaux. Pendant que je serai au pied du lit avec mon caméscope pour guetter l'arrivée de Noël Junior, ma femme sera allongée sur le dos, les pieds en l'air dans des étriers. Une position qui ne joue pas sur la force de gravité et qui complique donc en fait son travail. Alors d'après vous, pourquoi on accouche encore le plus souvent comme ça chez nous? Eh bien parce que l'obstétricien a moins mal au dos. Et il ne peut pas se permettre d'avoir mal au dos car après il a un golf. Parce que ça reste la position la plus sûre pour le bébé. Ou parce que Louis XIV en a décidé ainsi.
A.S.C.
Ouais, A.S.C. ouais.
A.S.C.
J'allais dire pareil.
Je vous propose.
Bah A, du coup. Bah non, bah C.
Tous les obstétriciens n'ont pas un golf.
C'est
la réponse. C'est bien joué, Manon. J'ai dû vous guider un petit peu, mais c'est une bonne réponse. Oui, Louis XIV.
Beaucoup ont des golfs.
Beaucoup.
Oui. Oui, mais pas tous. Quand on généralise, ça peut mettre la réponse à un quiz qui est quand même très précis.
Ah oui.
Journalistiquement, tout est fact-checké. Louis XIV a décidé de beaucoup de choses dans sa vie et même de ça. Nous sommes le 2 octobre 1666 à Versailles. Louise de la Vallière, maîtresse du roi, est en train de donner naissance à son fils. Alors qu'Edmond de la Carrière, le médecin du roi, est jeté dans les douves pour avoir annoncé la semaine d'avant que l'enfant naîtrait le 29 septembre, c'était sûr. Le roi Soleil demande à ce que Louise de la Vallière soit placée sur le dos, les jambes en l'air, afin que, caché derrière un rideau, il puisse assister au spectacle. Voilà, selon la légende, et surtout selon Stéphane Bern qui me l'a raconté, comment la mode de l'accouchement allongé est née en Europe, même si, physiologiquement, elle est une aberration. Attention, pas de pic à Stéphane. Mais vous l'avez compris, ce quiz est avant tout dédié aux grandes avancées qui ont marqué l'histoire de la médecine, ou pas. Allons-y. On reste au XVIIIe siècle, à Paris, quai de Seine. À l'époque, Paris-Plage n'est encore qu'un projet lointain. La plupart des gens ne savent pas nager. Il n'est donc pas rare de voir des Maccabées remonter à la surface tout gonflés, un peu comme Cyril à l'issue d'un dîner du gras. Ma question est la suivante. Selon les médecins urgentistes de l'époque, quels soins étonnants fallait-il prodiguer aux rescapés d'une noyade pour les réanimer? Il fallait leur mettre une couverture chauffante en peau de yak sur le dos? Du tabac dans l'anus? Ou du sucre dans les yeux?
Le tabac dans l'anus.
Ça vient. Est-ce que vous pouvez répéter la réponse, s'il vous plaît?
Non, c'est bon.
Je
ne rentre plus dans votre jeu.
Non, mais c'est pas ça. Mais s'il est gonflé, il est mort. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus, il va rien se passer.
Non, mais on a.
À quel moment?
Pas à ce stade.
C'est pas précis encore cette question.
Alors, Quentin, là, vous venez de perdre un point. Contestant, n'est-ce pas, la formulation des questions. C'est une bonne réponse de Manon Mariani. Effectivement, du tabac dans l'anus des noyés. Oui, en ce milieu du 18e siècle.
Mais ils sont vivants ou pas?
Mais non, ils sont pas encore. Ils sont un peu noyés.
Ils ont bu la tasse, quoi. Ouais, c'est pas vraiment non, super, c'est, quoi.
Franchement, parce que si vous amusez à mettre du tabac dans la nuit de tous les morts, vous avez pas fini.
avec Cyril qui joue à la pute avec Titanic derrière. On est en plein naufrage journalistique. Écoutez, c'est très sérieux. Au XVIIIe siècle, le sénéchal de Paris fait poser des boîtes de secours dans lesquelles on trouve tout un tas d'ustensiles nécessaires en cas d'urgence. Aux côtés de l'alcool et d'une cuillère pour desserrer les mâchoires crispées, on se surprend à trouver du tabac qu'il faudrait donc souffler dans l'anus du noyé.
Faut demander à Luna, c'est ça.
C'est bien ça.
On insère alors une canule à voie rectale dans laquelle on pousse des fumées de tabac à l'aide d'un soufflet, procédure qui était censée réchauffer le noyé de l'intérieur.
Mais c'est une soufflette en fait.
C'est une sorte de soufflette. Ouais, vous qui les connaissez bien, vous les avez expérimentées.
Fais attention.
Aux Pays-Bas. Découverte médicale plus utile, celle-là, les amis. Quentin, vous connaissez Jon Snow?
Oui, bien sûr, oui.
Mais Jon Snow,
Le mec de...
De Game of Thrones. Ouais.
Très bien. Quel dommage, vous êtes éliminé, puisque c'était un piège. Avant le roi bâtard de Game of Thrones...
Il y en a un autre.
Il y a eu un autre Jon Snow, visiblement pas aussi célèbre auprès des millennials lobotomisés par les séries. Et pourtant, qu'a découvert mon Jon Snow à moi? La peste bubonique? La propagation du choléra par l'eau? Ou ce qu'il y a au-delà du mur?
C'est...
B.
Je sais pas.
B. Mais non, c'est une rêve, j'imagine, de la série.
Bref, ce qu'il y a au-delà du mur.
Ah, au-delà du mur.
Oui, très bien. Donc, bonne réponse de Quentin, lui, Jon Snow.
J'avais compris, au lac du mur.
Très bien, très bien. Jon Snow est le père de l'épidémiologie.
Elle dit que vous prononcez mal, hein.
Le père de l'épidémiologie. Dans les années 1840, ce médecin travaille par choix dans le quartier pauvre de Soho à Londres, où la misère et promiscuité font le lit du choléra. Des centaines de londoniens meurent sans que les autorités trouvent la cause de la propagation. Pour Snow, l'eau bue est en cause et non l'air vicié, comme le pensent les partisans de la théorie des miasmes à l'époque. Même sa femme doute de lui et lui répète souvent d'ailleurs « You know nothing, Jon Snow ». Mais voilà, Madame Snow avait
c'est
tort,
drôle,
car son mari s'entêtera, un point moins pour vous.
Ouais.
Il enquêtera, il finira par trouver que son intuition était la bonne. C'est par l'eau que se transmet le choléra. Enfin, j'aimerais qu'on termine sur une belle histoire. Vous ne le savez certainement pas, mais parmi les pionniers de la transplantation cardiaque, il y a un homme au profil extrêmement atypique pour son époque. Nous sommes dans les années 50. À l'Académie du FBI, Cyril Lacarrière vient de recevoir son prestigieux
Right Livelihood Award,
qui récompense chaque année l'élève le plus doué en langue de l'Académie. Très loin de là, et dans le secret d'un laboratoire, d'après vous, qui expérimente la transplantation cardiaque sur des animaux ? Un médecin nazi réfugié en Argentine ? Un plombier tchèque immigré en Angleterre ? Ou un jardinier noir dans l'Afrique du Sud ségrégationniste ?
B, le plombier.
Le plombier ?
C'est
un jardinier sud-africain ?
Ouais. Dans l'Amérique...
Pendant l'apartheid ?
Ouais.
C'est une bonne réponse. De Quentin, lui, extraordinaire destin que celui de Hamilton Naki, qui était donc le jardinier de l'université de médecine du Cap, repéré, on ne sait pas trop comment, par le docteur Christian Barnard, futur pionnier de la transplantation, qui détecte chez lui des capacités chirurgicales hors normes. Il l'intègre à son labo. Le matin, le type arrose les bégonias, l'après-midi, il transplante des cœurs de chimpanzés. Avant sa mort, le professeur Barnard dira « Il est l'un des plus grands chercheurs de l'époque dans le domaine des transplantations. Il avait de meilleures compétences techniques que moi. » Victoire triomphale de Quentin Luc.
Oui, oui. Ah, je comprends le Fugain.
L'accordéon,
c'est un beau roman, c'est une belle histoire.
C'est une belle histoire, c'est pour ça.
Mais tout se tient dans le quiz, contrairement à ce que vous dites souvent. Zoom sur la médecine bikini ou comment la médecine a longtemps délaissé la santé des femmes. Muriel Salle, historienne spécialiste de l'histoire des femmes et des discours médicaux, est toujours avec nous. Alors Muriel, on l'a vu, la misogynie dans le domaine de la santé a aussi des conséquences directes sur la société. Si les médecins s'accordent tous à dire que le corps des femmes est différent, c'est le mot qui revient souvent, qu'il est peut-être trop fragile, alors pourquoi leur donner des postes à responsabilité ? Elles pourront pas tenir le coup. C'est aussi ça la conséquence de cette médecine bikini, une vision politique finalement.
Absolument, et exactement, là la boucle se boucle. J'évoquais tout à l'heure l'expression de sexe faible, ça c'est une expression qui est très ancienne, on la retrouve dès l'Antiquité, mais la notion de sexe faible, elle va se doubler d'une notion qui est la notion de nature féminine à partir de la fin du XVIIIe siècle. La fin du XVIIIe siècle, c'est la Révolution française, et c'est la méthode anatomoclinique, c'est-à-dire grosso modo la médecine moderne. Et en fait, à quoi ça va servir d'avoir la méthode anatomoclinique au service de l'idée qu'il y a une nature féminine? Ça va servir des discours très dépréciatifs pour dire qu'il y a une nature humaine. Cette nature humaine, elle ouvre des droits aux individus qui sont de nature humaine. Alors, il se trouve que les femmes, on a accepté de considérer qu'elles étaient de nature humaine quelques siècles auparavant. Bon, et donc, du coup, les révolutionnaires sont un peu coincés. Si on doit donner des droits aux êtres humains au prétexte qu'ils en sont, les femmes vont devoir avoir les mêmes droits que les hommes. Donc, du coup, il faut inventer une sous-nature humaine. Et c'est la nature féminine. Et cette nature féminine, on va s'attacher, preuve scientifique à l'appui, à montrer qu'elle est défaillante. Et
est-ce qu'on peut dire, alors que la médecine a été quelque part complice de la misogynie historique des hommes, parmi j'ai vu qu'il y avait des études à une époque sur le cerveau pour justifier que c'est l'homme qui devait prendre les décisions, qu'il y avait une différence dans le cerveau des femmes et des hommes.
Alors, d'abord, disons-le, il y a une différence entre les cerveaux des hommes et les cerveaux des femmes, notamment en termes de volume. Voilà, mais je pense que je n'apprends rien à personne. La taille de l'organe n'a rien à voir avec la performance. Mmh. Voilà. Donc, ça, c'est un premier point. Ensuite, dire que la médecine s'est rendue complice, c'est peut-être dire les choses un peu vite. Je formulerai un peu différemment, c'est simplement l'idée que la connaissance, le savoir scientifique, c'est politique. Et que donc, qui pose les questions, qui fait la recherche, qui finance et pour quels objectifs? Évidemment, ça a des conséquences sur la nature de la connaissance qu'on produit.
Mais est-ce qu'on manque de femmes médecins aujourd'hui?
Ah non, on ne manque pas de femmes médecins aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai 60% de jeunes femmes dans mes amphithéâtres en fac de médecine. Donc non, ce n'est pas ça le sujet.
Dans la médecine, c'est différent quand on est une femme. Est-ce que c'est encore plus compliqué quand on est une femme noire?
Oui, c'est encore plus compliqué parce qu'en fait, on pense effectivement la différence des sexes. Quand je dis la différence des sexes, c'est-à-dire qu'on considère que c'est la différence reine et presque la seule et l'unique. Et effectivement, on s'est rendu compte récemment quand même qu'on pensait beaucoup à partir de corps blancs. Celui qui l'a peut-être, je dirais, montré de manière un peu efficace parce qu'il a publicisé ça, c'est un étudiant en médecine nigérian. On est en 2021. Et ce jeune homme qui s'appelle Chidibere Ibe, il publie sur son compte Twitter, à l'époque on disait encore Twitter, une coupe anatomique d'une femme enceinte noire. Et là, avec donc du coup un bébé noir dans le ventre. Et là, du coup, on se rend compte, incroyable, que l'image immuable, c'est celle d'un corps blanc, d'une femme blanche. Et depuis, on a effectivement pas mal de littérature qui montre qu'on a des déficits de connaissances et que, là encore, breaking news, faire des photographies d'affections dermatologiques sur des peaux blanches et les faire sur des peaux noires, ça donne pas tout à fait le même résultat et ça peut poser des problèmes de diagnostic, par exemple.
On évoquait tout à l'heure cette expression de sexe faible qui est ancestrale presque. Comment elle n'a pas pu être démontée avant? Parce que enfin, les femmes vivent tout simplement plus longtemps que les hommes. Voilà, c'est assez simple. Comment on peut parler de sexe faible alors qu'en fait, elles nous enterrent tous?
Alors ça, je crois que je pourrais multiplier les exemples, et je pense qu'on n'aura pas le temps, de moments où l'imaginaire l'emporte sur la réalité des faits qu'on observe. Ça, il y en a effectivement des quantités. Après, si vous me permettez quand même un tout petit mot sur cette espérance de vie, effectivement, les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Ça, c'est quand on regarde l'espérance de vie en général. Les choses sont quand même nettement moins favorables quand on regarde les espérances de vie sans invalidité. Là, les femmes vivent à peine plus longtemps que les hommes. Donc, ça veut dire qu'elles vivent plus longtemps en mauvaise santé. Et comme la retraite moyenne d'une femme est 40% inférieure à la retraite moyenne d'un homme, eh ben, elles vivent plus longtemps en plus mauvaise santé et plus pauvres.
Et c'est sur cette info feel good que s'achève cette partie. Vous écoutez France Inter, il est 16h45. L'heure de découvrir maintenant la personne à suivre.
Je vous présente Shonda Rhimes. Elle a 55 ans, elle est américaine et c'est l'une des showrunneuses les plus populaires des années 2000. On lui doit les séries Scandal, How to Get Away with Murder, La Chronique des Bridgerton et surtout celle qui nous intéresse aujourd'hui, Grey's Anatomy. Shonda Rhimes a lancé sa série phare en 2005 sur la chaîne américaine ABC, une série centrée sur des internes en médecine à l'hôpital de Seattle. C'est la série la plus longue de l'histoire de la télévision. Elle en est aujourd'hui à sa 21e saison, renouvelée pour sa 22e. Et ce qui a fait la différence dès le départ avec Grey's Anatomy, c'est son casting principalement féminin. À l'époque, il y avait très peu de séries médicales où les femmes étaient chirurgiennes. Mais là, c'est le contraire. La série se centre sur des personnages de femmes fortes, indépendantes, libres et surtout brillantes, que ce soit Meredith Grey, Christina Yang, Addison Shepard, Izzy Stevens. Leur particularité, c'est que Shonda Rhimes a écrit leur rôle sans penser à leur look. Au moment des castings, aucun critère physique n'a été imposé aux personnages féminins, ce qui a donné un casting très diversifié, blonde, noire, asiatique, rousse, petite, grande. Dans Grey's, il y a tout type de physique et surtout, les femmes ne sont jamais réduites à ça. Et puis, Grey's Anatomy a aussi placé la santé des femmes au cœur de certains de ses épisodes. La maternité, par exemple, un sujet qui revient énormément, tout comme certains AVC, ou les détections de cancer. D'ailleurs, grâce à la série, deux femmes ont découvert qu'elles avaient elles-mêmes un cancer du sein. Et puis Grey's Anatomy traite aussi des violences faites aux femmes. Dans un épisode devenu mythique, une jeune femme se rend à l'hôpital après avoir été violée. Et la médecin qui la prend en charge lui explique toutes les étapes médicales de façon à ce que la patiente se sente bien et comprenne le dispositif médical. Rien n'est caché dans cet épisode, on voit les bleus, les examens, le sang. C'est dur, mais après sa diffusion, énormément de femmes ont remercié Shonda Rhimes d'avoir montré tout ça dans une série grand public. Aujourd'hui, Shonda Rhimes est considérée comme l'une des femmes les plus puissantes au monde de la télévision avec sa société de prod Shondaland. Elle a su créer un véritable empire et est devenue le symbole d'une télévision progressiste, féministe, colorée et LGBT friendly. Les héroïnes de ces séries, toutes des femmes puissantes, badass, sont devenues des références. Grâce à Shonda Rhimes, la représentation des minorités et des personnages féminins dans les séries a bien changé.
Merci Manon. Notez que dans quelques années, c'est votre société de production Manon Land qui sera effectivement...
Marianne Hochland,
c'est vrai que ça sonne bien. Est-ce que des séries populaires comme Grey's Anatomy, ça change quelque chose à notre problème de médecine bikini?
Oui, d'abord parce que moi, en l'occurrence, je suis une grande fan de Grey's Anatomy.
Moi aussi.
Et puis parce que, alors vous avez dit, c'est des femmes, c'est pas non seulement des femmes médecins, c'est les femmes en chirurgie. Alors là, en plus, il y aurait plein de choses à dire sur les spécialités médicales qui sont plus ou moins accueillantes. Si vous faites de la médecine générale, de la gynéco, de la dermato ou de la pédiatrie, passe encore. Si vous voulez rentrer au bloc, là, et on entend des choses étonnantes, hein, sur, par exemple, le volume de la vessie qui serait une contre-indication à l'exercice de la chirurgie. Ah oui. Alors, on peut peut-être faire l'hypothèse que, du coup, à certains âges, les messieurs ayant des problèmes de prostate pourraient effectivement devoir quitter le bloc un peu prématurément. Mais oui, et vous en avez évoqué un certain nombre. Moi, j'ai le souvenir d'un épisode où il est question de crise cardiaque chez une jeune femme et qui, à mon avis, oui, permet de diffuser la connaissance en mode pop, et ça c'est bien, ouais.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Le journalisme n'est pour lui qu'un hobby. En effet, il tire l'essentiel de ses revenus de son autre activité, influenceur travel sur Instagram. Si Jean-Marc Jancovici apprenait combien de vols il a pris dans sa vie, il dirait certainement... Non, il ne dirait rien, il décéderait sur le coup. Pierre Courade, avant de vous envoler pour Montréal et accrocher à votre tableau de chasse le Canada, après la Bolivie, la Thaïlande, le Népal, le Japon, l'espace de 6 mois, vous allez donc nous résumer tout ce qu'on s'est dit sur la médecine bikini en une minute chrono.
Et la médecine bikini, c'est la médecine qui ne s'occupe que des parties du corps féminin contenues sous le bikini, les seins et les organes sexuels. C'est en fait un terme qui désigne tristement ce à quoi s'est longtemps résumé la médecine pour les femmes. L'historienne Muriel Salles est venue nous expliquer que la médecine, en plus d'être une affaire d'hommes depuis toujours, a aussi pu mettre en danger la santé des femmes. Dès l'origine, les scientifiques n'ont pas voulu se prendre la tête et ont fait fi de leur spécificité. Or, il existe des différences anatomiques et physiologiques entre les hommes et les femmes. Les femmes n'assimilent pas l'alcool de la même manière que les hommes, par exemple. Manon s'est alors exclamée dans l'émission CQFD. Ce regard scientifique biaisé a entraîné des retards significatifs dans la prise en compte de maladies comme l'endométriose. Une femme qui se plaint est moins prise au sérieux. Dans l'imaginaire médical, une femme est toujours malade, donc défaillante. Pire, encore aujourd'hui, en basant principalement la communication sur les risques de cancer du sein et sur les suivis gynécologiques, les femmes négligent le reste de leur santé, ce qui fait qu'actuellement, la première cause de mortalité chez elles, c'est l'accident vasculaire cérébral. Définitivement, la misogynie tue.
Belle conclusion, Pierre. Et pour une fois, vous avez respecté votre timing. Rosa Burstein, le masque, c'est votre déguisement aujourd'hui pour parler de la santé des femmes ?
Vous espériez peut-être que je vienne en bikini, Mathieu, pour illustrer le sujet. Et non raté, figurez-vous que jeudi dernier, j'annonce à notre rédac chef Cyril que j'ai le Covid et suis dans le mal. Il me dit « Bon, ça sera parti d'ici mardi. Tu mets un masque, geste barrière, et puis tu seras assise à côté de Manon. Si tu la contamines, elle, c'est pas bien grave. »
Quel méchant, Manon.
Non, en plus, je l'ai plus, voilà. J'ai fait et c'est négatif, maintenant, ouf. Ça a quand même fait le bonheur de mon ostéo-complotiste. Vous avez chopé le Covid alors que vous êtes triple vacciné ? Comme c'est bizarre ! J'ai passé le week-end avec une migraine de taré à raisonner comme à l'époque où je chopais une MST. C'est qui le connard qui me l'a refilé ? Là, la réponse était simple. Mon mec, à côté de moi, c'est toi ? T'as roulé des pelles à qui ? Je sais, ta cousine, Daphné, la salope ! Alors non, il m'a pas trompé avec sa cousine, il est pas lillois, mais je me suis souvenu que Daphné était venue me voir au théâtre la dernière semaine avec un masque qu'elle a enlevé quand on a dîné ensemble. Putain, j'ai pas arrêté de baiser sans capote aux vieilles charrues pour me rechoper des saloperies de pharmaciens de Levallois-Perret. Merde, j'étais chafouin. Hein. Et pour cause, c'est beaucoup plus relou d'être malade quand on est une femme que quand on est un mec. Les antidouleurs ont été testés sur des hommes, donc ils marchent moins bien sur nous. En fait, c'est pas parce qu'on est a priori plus petite de taille que les hommes qu'on a besoin de plus petites doses. Un peu comme nos salaires, en fait. Parfois, on métabolise les médocs plus vite et comme on souffre, on se surdose nous-mêmes, on devient addict. Donc personne ne juge ma consommation de chocolat, ok ? J'ai besoin d'une tablette sésame caramélisée par repas pour ma santé. Les tests médicaux ont été faits sur des gars parce qu'ils sont le prototype, le sujet neutre, propre, parfait pour la recherche. Nous, notre truc d'ovaire et de cycle, là, ça brouille les pistes, ça dévie, c'est emmerdant. Alors que c'est sûr que des coucougnettes poilues, c'est tellement plus élégant. On nous soigne moins bien, les femmes réagissent différemment des hommes aux produits testés pour eux. Par exemple, on risque de se réveiller beaucoup plus tôt qu'un homme d'une anesthésie générale. Vision d'horreur. Ah, vous êtes encore en train de couper ma jambe. Bah, je croyais que vous aviez fini. Oh bah, non mais, vous embêtez pas de me continuer, je regarde, je me cultive. Ma mère aurait adoré que je fasse médecine. Elle était dégoûtée que je poursuive des études littéraires. Dites-moi, je vous embête, mais mon problème c'était sur ma jambe droite et là, vous m'enlevez la jambe gauche. Rassurez-moi, c'est normal ou vous êtes macroniste? On est moins bien soigné et moins bien averti de certaines maladies, notamment cardiaques. Bah ouais, les infarctus, c'est un truc de bonhomme. C'est Don Draper dans Mad Men qui fume le cigare, boit son whisky dry et gère le stress entre les grosses décisions au boulot et sa maîtresse qui menace de se jeter par la fenêtre s'il lui achète pas un manteau de fourrure plus fourni que le torse de Mathieu Noël.
Ça n'existe pas.
C'est pas Karine, mère célibataire, qui tarde à appeler les secours parce que ses premiers symptômes ne ressemblent pas à ceux de Don Draper. Elle a pas nécessairement de douleur dans l'abdomen, mais des nausées, donc elle espère qu'elle est pas encore enceinte. Le coup avec le livreur de pizza avec Olive, c'était pour déconner, voilà. Mais elle veut plus entendre parler des mecs. Le temps qu'elle refile ses mômes à la voisine, elle arrive en retard à l'hôpital, et Karine embrouille les urgentistes en leur décrivant des maux de ventre. « Madame, vous êtes sûr que vous faites pas une indigestion ? » lui dit l'interne. « Vous avez peut-être mangé indien hier. Vos selles, elles sont comment ? Orange, comme le curry ?» Et non, Karine est en train de faire une crise cardiaque. Conclusion, prévention, information. Mesdames, on fait des cancers du sein et des cancers du poumon. Les clichés et les inégalités ont la dent dure, mais pour se consoler, sachez qu'on a quelques super pouvoirs, dont mieux sentir les odeurs, apparemment. C'est nous qui détecterons toujours en premier un prout. prenons ce qu'il y a à prendre.
Effectivement, c'est rassurant. Il faut se consoler comme on peut. Remettez néanmoins votre masque, Rosa, s'il vous plaît. Je ne suis pas du tout hypochondriaque, mais quand même. Bon, Rosa bon. Burstein, on vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen. Quant aux spectateurs parisiens, ils pourront vous voir pour la dernière date de la saison, le 16 juin, au Théâtre de la Renaissance. Et puis ensuite, vous continuez votre tournée à Marseille, Caen, Rennes, Poitiers. Toutes les dates sont sur votre site internet. Merci encore, merci Muriel Salle de nous avoir fait découvrir la médecine bikini. Je rappelle l'ouvrage que vous avez publié sur le sujet « Femmes et santé, encore une affaire d'hommes ?» Point d'interrogation aux éditions Belin. On a eu la réponse encore un petit peu. Hein, on avance et surtout aux États-Unis, on recule. Donc il faut faire attention. Et puis merci beaucoup pour ce magnifique calva l'arranger, je
on
le rappelle. Ça, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on m'ait fait dans
ça
cette émission.
Ça vient d'où en Normandie, ça ?
Eh bien, écoutez, c'est écrit sur la bouteille. Ça vient de Villequier, très précisément.
Très bien.
Vous irez quand... Vous connaissez pas, vous n'avez pas livré là-bas
c'est... Non,
il était livreur pour les cafés Richard.
C'est quoi, c'est le 14 dans le 50
C'est le 14.
Ah, alors voyons voir. C'est dans le 76, mon ami.
Attention,
on ne peut pas faire. Non, on ne doit pas gagner du temps.
Il est juste que les gens s'en foutent.
On est juste précis jusqu'au bout, Manon.
Zoom, zoom, zen.